Vous serez toujours malheureux. Vous voulez la recette du chrétien malheureux, je vais vous la donner. C'est le chrétien qui est tout le temps en train de s'apitoyer sur son sort. En train de chercher ce qui ne va pas dans sa vie. En train de prier que pour lui-même. Ça, c'est le chrétien qui est malheureux. Le plus grand bonheur, c'est de comprendre une chose, que tu dois dominer dans tes situations et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Ça sera la plus grande des choses que tu pourras accomplir dans ta vie.
Mais
il y a tellement de chrétiens qui sont rivés sur eux-mêmes,
hein,
sur ce qu'ils veulent voir s'accomplir pour eux-mêmes. Place tes prières pour les autres avant. Apprends à faire ça. Tu verras. Après, quand tu prieras pour toi-même,
tu diras,
ah oui, Seigneur, c'est vrai. Mais Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça. Et je te remercie parce que tu t'en occupes. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors
que les gens, ils sont là avec leur prière. Seigneur, moi. Vous serez malheureux si vous faites toujours ça. C'est vrai, quand on reçoit le Seigneur, on a besoin, on est bébé spirituel. C'est moi et moi-même. Hein. Mais rapidement, il faut que tu sortes de cette sphère. De toujours moi. Commence à prier pour les autres. Partage Christ aux autres.
Sois
une bénédiction pour les autres. Tu verras, tu seras épanoui. Tu vas aller voir béni et en même temps t'en ramasseras plein. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu seras triste et malheureux toute ta vie. Parce que Dieu va commencer à te bénir. Mais comme tu es tout le temps rivé sur toi-même, tu as les yeux sur toi-même, au bout d'un moment, ta bénédiction va se stopper. Parce qu'il faut que tu apprennes à bénir les autres. Une des façons de le faire, nous le savons, c'est par la prière. Et je veux qu'on continue à étudier ce sujet de la prière. Parce que je veux que vous appreniez à prier dans d'autres dimensions. Je veux que vous appreniez à prier d'une manière inspirée. D'une manière où vous allez d'un seul coup rentrer dans certains domaines de l'esprit. Ce qui vous permettra d'avoir cette propulsion extraordinaire de l'esprit pour aller de l'avant. Sinon, vous allez rester toujours à un certain niveau. Bon, il y a des chrétiens, ils ne savent même pas ce que c'est que la foi. Alors eux, ils sont toujours au niveau 0000. Bon, au bout d'un moment, tu commences à découvrir ce qu'est la foi. C'est bien. Et là, tu vas vraiment faire des expériences avec Dieu. Mais Dieu t'appelle aussi à aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que là, nous sommes en train d'étudier les prières dans l'esprit. Nous sommes dans Éphésiens 6:18. Et ça, c'est vraiment notre texte de référence. Je veux que vous appreniez à prier efficacement. Je veux que vous progressiez dans votre vie de prière. Je veux que vous compreniez que vous pouvez passer des temps de prière extraordinaires avec la présence de Dieu. Et que de plus en plus, vous avancerez avec lui. Et on en a tous besoin, frères et sœurs. Il y a un moment dans notre vie spirituelle où on doit vivre ces choses-là. Mais un de mes rêves, c'est de le vivre collectivement. C'est-à-dire que tout le monde rentre dans une dimension de l'esprit très particulière. Ça, c'est le vrai réveil. Je dis bien le vrai réveil. Ça, c'est un réveil qui peut durer extrêmement longtemps. Ou à ce moment-là, dans l'église, il y a une onction extrêmement forte. Et les gens sont touchés d'une façon surnaturelle constamment. Le pécheur perdu, il se retrouve, il n'est même pas à 20 mètres de l'église.
Et
déjà, la présence de Dieu commence à le saisir. Le malade arrive sans que personne ne touche. Alors qu'on est dans la louange et l'adoration. L'onction est tellement forte. Instantanément, il est guéri. Le démoniaque arrive. Et d'un seul coup, Il se retrouve par terre.
Et
il est délivré. Sans que personne ne chasse des démons. Parce que la présence de Dieu devient immensément intense. Ça, c'est une dimension d'église que très très peu d'églises connaissent. Et que pourtant Dieu veut qu'on ait. C'était la dimension de l'église apostolique. Dans Actes chapitre 2. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Ephésiens 6:18, Paul nous donne des clés. En disant, priez en tout temps, à la bonne saison ou au temps opportun, par l'esprit ou dans l'esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints.
Musengere muri muhemwe bihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi byo mu bibere maso mukobeje gose musengere nabera bose.
Alors vous vous rappelez que ce texte nous apprend qu'il y a des prières dans l'esprit. Et je vous ai montré qu'une des prières, enfin la prière dans l'esprit la plus basse, c'est la prière en langue. Mais déjà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut savoir à quoi ça sert. Donc nous l'avons vu, nous disons des mystères, nous prophétisons notre avenir. Personne ne nous comprend quand on prie en langue. C'est par notre esprit, ça vient de notre esprit. Notre intelligence demeure stérile. Tout ça, nous l'avons découvert. Et je pense que pour vous, ça n'a plus de secret. En tout cas, tous ces messages ont été enregistrés. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer ces messages. Et en fait, la prière dans l'esprit nous aide, ni plus ni moins, à nous sensibiliser au monde de Dieu. Parce que Paul parle ici de prier en étant dans l'esprit. Et il nous parle aussi de toutes sortes de prières. Et rappelez-vous que prier, c'est communiquer avec Dieu. Et une communication avec Dieu, c'est pas simplement toi qui émet toute la journée. C'est comme au téléphone avec certaines personnes. Quand vous avez certaines personnes au téléphone, si vous arrivez à dire oui, vous avez compris que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et des fois, il y a des gens comme ça, ils vous parlent un quart d'heure, ils vous disent attends, s'il te plaît, je voudrais parler maintenant. Et beaucoup de chrétiens, ce sont c'est comme ces personnes qui parlent, je dirais pas les dames, je dirais ces personnes qui parlent. Et en fait, vous n'avez même pas le temps de dire quelque chose. Et même si vous êtes au téléphone en train de répondre, personne n'écoute pas les brrrr, tout en train de parler. Et la prière, c'est pas ça. La prière, c'est une communication. Et pour vraiment entrer dans cette communication, c'est vrai que nous avons tout au niveau position en Christ. Et nous sommes en communication, en communion avec le Seigneur. Mais cette communion se développe. Et une des façons de développer la communion avec Dieu, c'est pas la seule, c'est d'apprendre à entrer dans l'esprit. Donc tu commences à prier en langue. Tu commences à sensibiliser ta nature spirituelle. Maintenant, il va falloir que quand tu pries pour quelque chose ou pour quelqu'un, tu apprennes à écouter ta nature spirituelle. Arrêtez de prier comme ça. Dans tout ce qui sort de ta tête, là, tu le dis à Dieu. Apprends à sensibiliser ta nature spirituelle et à écouter ce qu'il y a. C'est alors que tu verras que de ton esprit, il va y avoir des choses qui vont sortir de plus en plus. Plus tu grandis spirituellement, plus quand tu vas commencer à te mettre dans l'esprit, la présence tangible, touchable de Dieu va descendre sur toi. Et tu vas sentir une inspiration. Et là, on entre dans une dimension beaucoup plus importante des prières dans l'esprit, qui est la supplication.
utangura gusenga winginga.
La supplication, c'est quoi? C'est une prière fervente qui vient vraiment du cœur, de l'esprit.
Gusenga winginga ni kini gusenga bivuye mu mutima wa bivuye mu mutima ibwina muri wewe.
La supplication n'est pas la mendicité devant Dieu.
Kwinginga su gusegerereza imbere y'Imana.
Les mendiants ne font pas partie de la famille. Un mendiant, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille, en tout cas, je l'espère. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vous fasse « ça y dit à papa, ça y dit à maman » si c'est ton frère, ta soeur ou ton enfant. Ça serait une honte. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ta famille. Et si tu vois quelqu'un de ta famille faire ça, te supplier dans le sens du terme classique, te supplier comme un mendiant, là tu le repousseras, tu dis mais ça va pas, non? Tu sais très bien qu'on est de la même famille. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent ça avec Dieu. Non, quand vous voyez le mot supplication dans la Bible, ce n'est pas du tout une question de supplier Dieu comme un mendiant. Mais nous avions commencé à voir ça la dernière fois.
Et
nous avons regardé le texte de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, au verset 1, il est dit: j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous savons ici que Paul utilise le terme supplication. Et cette supplication, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas le fait de supplier Dieu comme un mendiant. Mais c'est vraiment une prière qui sort de ton cœur. Une prière fervente. Où tu es impliqué. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme tout, et ton père qui est dans le secret te le rendra. Vous vous rappelez que Jésus disait cela, et que souvent c'est pris d'une façon, je dirais, directe, au sens propre. Mais nous avons vu que Jésus voulait dire quelque chose de beaucoup plus profond. Apprendre à se fermer au monde qui nous entoure, à toutes ces choses du naturel, qui souvent ne nous permettent pas parce que nous les écoutons trop fort. Cela ne nous permet pas d'écouter le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Et c'est pour ça que souvent, quand nous prions, nous ne sommes pas impliqués dans notre prière. Souvent, c'est ce qui se passe malheureusement. On est là en train de prier, mais on pense à complètement autre chose. On n'est pas impliqué. Et je vous garantis, quand vous n'êtes pas impliqué dans votre prière, quand vous n'êtes pas, vous n'êtes pas complètement isolé par rapport à l'extérieur, spirituellement parlant, que vous êtes perturbé par toutes sortes de choses, il
n'y
a pas cette communication forte avec Dieu. Donc en fait, vous n'êtes pas impliqué dans votre prière. Vous priez, bon, vous priez, ouais, d'accord. Seigneur, je te prie pour la journée, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie. Voilà. Ça ne porte pas grand chose. Si ce n'est rien du tout. Ça, c'est de la prière de bébé spirituel. Dis à ton voisin, si tu fais encore ça, c'est que tu es un bébé spirituel. Comme ça, il saura de qui il parle. Donc, il y a beaucoup plus. Et nous avons marqué aussi dans Romains 8, verset 26, quelque chose de très important à propos, et c'est là où on va vraiment reprendre particulièrement ce thème ce soir. De même, Romains 8, 26, aussi l'Esprit ou le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, de nos insuffisances spirituelles. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
gatandatu ngo niko namuhema dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko muhema ubwiwe aradusengera aniha imeniho itovugwa.
Ce soir je voudrais vous parler d'un thème justement à partir de cela. Le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Souvent, nous n'orientons pas nos prières correctement, selon Dieu. Et quand une prière n'est pas orientée correctement, selon Dieu, eh bien, tu n'auras pas le résultat. Parce que rappelez-vous que nous devons être sur la même longueur d'onde que Dieu. Dieu ne s'ajustera jamais à ta télé-toire. Moi, ce que je désire. Ma chaîne de télé, moi. Dieu ne s'y ajuste pas. C'est pas lui qui va capter ta chaîne de télé. C'est toi qui dois te mettre sur la bonne chaîne de télé divine. Et tu dois chercher l'aide du Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à te mettre sur la bonne longueur d'onde de Dieu. Ce soir, je vais vous introduire une notion qui est très importante au niveau de la prière. C'est la notion d'enfantement. Et je vais vous montrer dans l'Écriture cet aspect d'enfantement spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans votre vie de prière, qui va vous permettre de passer certaines étapes de votre vie et donc de votre destinée.
Et
beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses et restent à un niveau extrêmement bas au niveau spirituel à cause de cela. Il faut que vous compreniez une chose. Si vous voulez voir Dieu intervenir dans le naturel et dans les situations diverses dans lesquelles vous priez, les choses se passent d'abord spirituellement et elles se manifestent après. C'est pas le contraire qui se passe. Et c'est là où les gens comprennent mal. Par exemple, quand on va prendre un exemple très simple. Vous savez, il y a des gens, souvent, ils vont ouvrir des églises.
Et
ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une œuvre de Dieu s'enfante d'abord dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent avec ça. Ils déclarent une association et ils disent après, voilà, maintenant je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Ils
n'ont
rien compris, ces gens-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord, Dieu enfante cela et nous fait enfanter ça par l'esprit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et après, le reste, c'est juste une question d'avoir des papiers. L'important, ce n'est pas le bout de papier. L'important, c'est savoir ce qui a été enfanté d'abord. Dans le monde spirituel. Et le papier sera important juste dans le naturel. Il faut l'avoir, bien sûr. Parce que nous sommes dans un monde naturel et il faut qu'on soit en règle vis-à-vis du monde naturel. Mais ce que je veux dire par là, que ce n'est pas le papier qui prouve que quelque chose a été enfanté spirituellement. Et c'est souvent là où les gens se trompent. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient au Seigneur. Quelqu'un qui va naître de nouveau, il va y avoir un enfantement dans la prière d'abord. Pas de sa part. Mais de la part de gens qui vont prier pour cette personne. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Ce soir, on va toucher quelque chose qui est plus profond, mais qu'il faut que vous appreniez un jour ou l'autre dans votre vie spirituelle. Il y a des moments où vous aurez des transitions spirituelles. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? On est habitué à la transition ici, non?
Transition.
On en a eu deux, c'est ça? Bon, vous comprenez que ça va d'un régime vers un autre. En vue supposément d'être, d'aller vers le meilleur. Et Dieu nous veut toujours d'une dimension vers une autre dimension. Le désir de Dieu, c'est qu'on aille d'un domaine vers un autre. Dieu veut jamais qu'on descende, il veut toujours qu'on monte. Dieu veut jamais qu'on soit coincé, mais au bout, qu'on s'épanouisse. Dieu est un Dieu toujours d'augmentation, de multiplication. Dieu n'est jamais un Dieu de soustraction ou de division. Donc, obligatoirement, il y a des moments dans notre vie où nous sommes là et nous ne sommes pas satisfaits. Souvent, une transition commence par une insatisfaction. Dans le cœur, je ne parle pas d'un désir charnel de vouloir des choses. Mais tu es là, tu marches vraiment avec le Seigneur, tu aimes le Seigneur, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu sens que vraiment, tu sais que la parole de Dieu dit certaines choses et tu n'y es pas du tout. Peut-être Dieu t'a parlé dans certains domaines et tu vois bien que tu n'y es pas du tout. Tout ça fait partie des transitions. Le mariage aussi peut être une transition quand c'est fait selon Dieu. Entrer dans un ministère est une transition. Mais pas seulement ça. Parfois tu vas sentir que dans le domaine professionnel tu es dans des transitions. Il y a toutes sortes de choses qui sont des transitions. Des fois tu sens que dans ta maison tu dis non, je sens vraiment il faut que je serve le Seigneur dans ma maison et tu as envie d'ouvrir un groupe de maison. C'est une transition. Il y a plein de choses qui peuvent être des transitions. Ça peut être des petites transitions ou des très grandes transitions. Plein de choses peuvent se produire dans notre vie. Si vous voulez réussir ces choses, il va y avoir un temps d'enfantement. Il y a quelque chose de spécial qui va d'abord se produire dans la prière en vous. Par exemple, tu vis ta petite vie chrétienne, mais tu n'es pas satisfait. Tu dis, Seigneur, je voudrais vraiment expérimenter le Saint-Esprit. Un désir de sa présence intense. Ça va être une transition dans ta vie. Et tu vas commencer à chercher Dieu. Et nous allons voir que la Bible nous parle de ce genre d'enfantement. Dans Galates 4, verset 19, Paul nous parle de cet aspect de l'enfantement et des douleurs de l'enfantement. Paul va dire dans Galates
4, 19,
il va dire, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul écrivait à des églises de la province de Galatie, je vous le rappelle. Et en fait, Paul leur disait, mais bon, ils avaient commencé un peu à dévier. Et en fait, ce que Paul ressentait ici, c'est que comme ils avaient un peu dévié, ils sentaient au niveau de la prière qu'il y avait des temps difficiles. Et il disait à ces Galates, à nouveau, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Je vous ai amené à Christ, les églises ont commencé. Mais vous êtes en train de redévier vers la loi de Moïse. Et Paul comprenait tout à fait que ce n'était pas un combat naturel. Quelque chose de spirituel. Il y a des douleurs de l'enfantement. Jésus va les décrire d'une façon très intéressante. Demandez pas à Steve de les décrire, il ne saura jamais ce que c'est. Jean chapitre 16. Verset 20 et 21. Il y a un temps quand vous entrez dans la prière. Dieu va mettre quelque chose de très spécial sur vous. Un fardeau, mais attention, quand je parle de fardeau, il faut faire attention ici. Parce que quand on commence à parler de ça, il y a des gens qui ont des mentalités religieuses et qui parlent de fardeaux qui ne sont pas des fardeaux. Je porte le fardeau de ma maladie.
Ça,
c'est pas un fardeau. C'est ce que l'ennemi veut faire dans ta vie et ça, c'est quelque chose que sur lequel tu dois dominer. Tout ça, ce ne sont pas des fardeaux. Quand on parle de fardeau dans la prière, c'est quelque chose qui est surnaturel. Qui vient, non pas parce que tu as vu quelque chose. Vous savez, un besoin n'est pas forcément un fardeau. Vous pouvez voir des enfants de la rue et dire, oh, les pauvres gosses. Et vouloir tout faire pour les aider, faire toutes les belles prières, les mettre dans une maison, et essayer d'aller courir partout pour trouver de la nourriture, et échouer lamentablement, et être obligé de les remettre dans la rue quelques années plus tard. J'en ai vu des gens comme ça. Et pour moi, ils ont fait plus de mal que de bien. Alors que la cause était noble au départ. Mais
ce
n'était pas un fardeau divin. C'est-à-dire, comment Dieu ne veut pas s'occuper de ces enfants-là?
Si,
il veut s'en occuper.
Mais
il faut qu'il trouve le bon canal d'abord.
Et ce
n'est pas parce que des gens sont dans des problèmes que forcément ils veulent s'en sortir. Et Dieu ne perd jamais son temps avec des cœurs qui ne veulent pas s'en sortir. Je vous ai choqué? C'est une vérité. Je tiens à vous dire une chose. N'essayez pas de perdre votre temps selon les besoins. Ne faites jamais ça. Ça anesthésiera votre vie. J'ai vu des chrétiens prendre toutes sortes de fardeaux du monde en général et ils priaient, ils faisaient toutes sortes de choses. Et je dois dire que la plupart d'entre eux ont échoué. Ça fait 28 ans que je suis converti. J'en ai vu des choses. J'ai vécu sur 3 continents. J'ai vu toutes sortes de gens faire toutes sortes de choses, dire que Dieu leur avait dit toutes sortes de choses. Sauf que quand vous y allez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, des fois vous dites, tiens, un tel il fait quoi encore? On
ne
sait pas trop. Il est quelque part. Il va dans une église encore? Ah,
oh,
je crois qu'il reste à la maison. On ne sait même pas s'il prie encore. Des gens qui vont raconter toutes sortes de choses. À propos du Seigneur, etc. Faites attention. Il y a des choses qui s'enfantent dans l'esprit. Et il y a des choses qui s'enfantent dans la chair. Je ne parle pas des bébés ici. Mais il y a des gens qui enfantent des œuvres dans la chair. Et ils signent à la place de Dieu. Et ça ne marche pas. Non, il faut que vous appreniez. Je suis en train ce soir de vous enseigner une leçon extrêmement importante. Je
ne
sais pas si ça passera juste avec ce soir, mais je tiens à vous dire que c'est une grande clé pour votre vie spirituelle. Il y a des moments dans votre vie
où
Dieu va mettre quelque chose. Quand vous commencez à prier, Dieu commence à mettre quelque chose sur vous. Sa présence vient sur vous. Et vous vous sentez poussé à prier vers une direction. Ça, c'est un fardeau qui vient du ciel. Et vous dites, mais je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai pas l'habitude de prier sur ça. Quand vous commencez à être... Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens super qualifiés. Il cherche des gens disponibles. Malheureusement, souvent dans la prière, les gens ne sont pas disponibles. Ils sont là, comme je vous le disais tout à l'heure, en train de brrr, toutes sortes de trucs. Ils racontent plein de trucs à Dieu. Ils sont pas disponibles. Si vous n'êtes pas disponible, Dieu, comme la ligne de téléphone est occupée tout le temps, Dieu ne peut pas vous appeler. Parce que tout le temps, votre ligne est occupée. C'est quoi le message sur Africell? Je sais plus.
Go murondera ntimushobora kumuronka ariko avugana n'uwundi.
Il connaît ça par cœur. Et c'est clair, il y a des gens qui sont comme ça. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas dispo, Dieu ne peut pas mettre quelque chose en vous, un fardeau en vous. Pour que vous puissiez entrer dans une prière fervente. Une prière où vous cherchez Dieu, vous dites, Seigneur, vraiment, je te prie pour telle situation. Telle personne.
Donc,
Seigneur, je sens quelque chose par rapport à ça, mais vraiment, je prie pour ça. Montre-moi, Seigneur.
Et tu
entres dans une dimension de la prière qui est différente. Tu commences à sentir comme si ta prière, plus tu pries, plus l'Esprit de Dieu est sur toi. Et tu continues à prier en langue et il y a plein de choses qui sortent de ton esprit.
Ça, c'est
la prière inspirée.
On
a besoin de prières inspirées. C'est-à-dire de prières qui sont dirigées par l'Esprit.
Au
temps opportun, le Saint-Esprit met un fardeau sur toi. Et tu es là parce que tu es disponible. Dieu dit, appelle le
777.
Occupé. Essaye le
778.
Occupé.
Appelle
le
779.
Occupé.
Et
Dieu dit dans son ciel, qui vais-je trouver? Dieu cherche une ligne disponible. Là où il va pouvoir prendre quelqu'un et pouf, faire descendre le fardeau de son cœur. Parce qu'un vrai fardeau, c'est en fait le cœur de Dieu qui en partie t'est transmis dans ton cœur. C'est une partie du cœur de Dieu qui d'un seul coup est transmise dans ton cœur. Et tu sens ce fardeau dans ton cœur. Et là tu mets à part un temps. Et tu pries par rapport à ça. Et tu sens que tu es porté. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit te rappelle ces versets bibliques. Tu cherches dans ta Bible, tu retrouves ce verset. Et tu commences à le prier à haute voix. Et plus tu le pries, plus tu le parles, plus la puissance de Dieu vient sur toi. Ça, c'est commencer à enfanter des choses.
Il
y a des moments, tu sentiras ces temps de transition. Quand c'est ça, surtout fais une chose. Et surtout évite de faire quelque chose. Évite de laisser ça de côté.
Mais
au contraire, passe un temps supplémentaire dans la prière. Tu sens qu'il y a ce fardeau. Tu
ne
sais pas pourquoi ça revient, ça revient. Quand c'est comme ça, il faut que tu branches ta bonne antenne parabolique du côté de Dieu. Pour bien recevoir de son satellite. Et là, le Saint-Esprit va commencer à faire augmenter ce fardeau. Si tu ne le fais pas, Dieu va chercher quelqu'un d'autre de disponible.
Et
s'il trouve encore personne à côté, il va chercher quelqu'un d'autre. Souvent, nous demandons à Dieu d'être des canaux de sa grâce et de sa puissance. À Dieu d'être des canaux de sa grâce et de sa puissance. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous devons nous mettre à disposition de Dieu.
Mais
se mettre à disposition de Dieu, c'est ça, c'est pas compliqué.
Tu
peux être même dans des temps simples de tous les jours où tu passes un temps avec ton Seigneur.
Et
un jour particulier où tu sens vraiment que la présence de Dieu est en train de te cuisiner, entre guillemets, ton esprit. Passe plus de temps ce jour-là. Et tu pries en langue. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, je sens que tu veux me dire quelque chose ici. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Saint-Esprit va commencer à inspirer ta prière. Il va mettre ce fardeau. Et il y a des moments où ça deviendra tellement intense. Que c'est quelque chose qui va rester sur toi. Que tu vas prier. Et la présence de Dieu va s'intensifier d'une façon de beaucoup plus en plus forte. Et tu sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Et comme toi, c'est comme si ton cœur, pendant, il y a des moments où ton cœur, c'est comme s'il pleurait parfois.
T'es
en train de prier pour tel ou tel inconverti.
T'es
en train de prier devant telle ou telle situation.
Et
c'est là où le cœur de Dieu t'est transmis davantage. Vous savez que Dieu a des sentiments. Dieu ne se réjouit pas du malheur des hommes. Pas du tout. Mais il cherche des hommes et des femmes à qui il peut transmettre juste une partie de son cœur. À des moments particuliers. Rappelez-vous, Dieu n'agit pas avec les besoins. Non, Dieu n'agit pas avec les besoins. Dieu agit avec les cœurs. Quand il sent qu'il y a une certaine masse de gens qui a soif de certaines choses, Dieu veut envoyer des réponses. Parce que Dieu est un Dieu de réponses. Il a envoyé du ciel des réponses divines dans la vie des êtres humains. Mais pour que ça se passe, parce que ça ne se passera pas tout seul, il y a un moment où tu dois te mettre dans la prière, où l'église doit se mettre dans la prière, et il y a un enfantement qui va se produire. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Au verset 20, il dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » La femme, verset 21, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Et quand elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu dans le monde, un être humain soit venu dans le monde.
Mweho muzobabara ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero umugore yaramutswe aja mu mubabaro kuko igihe ciwe kigeze ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba cibuka kugogwa kwiwe kuko anezerejwe nuko umuntu avutse mwisi.
Toutes les dames ici qui ont eu des enfants,
ce n'est
pas venu du jour au lendemain. Vous n'étiez pas là un jour tranquille. Et puis le lendemain, oh, regarde le joli bébé que j'ai. Vous avez d'abord senti que vous étiez enceinte. Ensuite, vous avez senti cet être se développer petit à petit en vous. Bouger. Il paraît que les bébés, tu sais, Steve, je vais t'apprendre quelque chose. Il paraît que les bébés donnent des fois des coups de genoux, des coups de pied et des coups de, des coups de coude. T'as déjà entendu ça, Steve? Il a pris des renseignements. Des coups de tête aussi. Et en fait, la femme qui est enceinte, elle sent que ce bébé se développe. Ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à porter. Mais elle sait aussi un jour. Elle le sent venir. Elle sait qu'il va y avoir les douleurs de l'enfantement. Oh, quand une femme sait que les contractions commencent à venir,
bon,
il y a des fois, elle se dit, c'est pas grave, ça, c'est pas aujourd'hui. Mais il y a des moments où elle ressent clairement qu'aujourd'hui, c'est le jour. Alors, elle dit au mari, prépare-toi, même si c'est à 3h du matin, il faut que tu m'amènes. Elle a préparé sa petite valise parce qu'elle sait que ça va se passer. Elle est prête. Mais elle sait aussi une chose. C'est que ça fait mal. Amen, mesdames. Ça fait mal. Hein? Elle sait que ça fait mal. Elle sait que ça va être un moment difficile. Il va falloir pousser. Transpirant avec le monsieur, s'il n'a pas la trouille. Vous savez qu'il y a des messieurs qui ont la trouille, alors ils se mettent à l'extérieur de la salle d'accouchement. Il ne faut jamais faire ça, les maris. Steve, tu seras là.
Ah ouais, je serai là.
Ah, il sera là. N'oubliez pas, Steve est célibataire.
Et si j'ai peur, je sortirai.
Il a dit en 2009, mais... Je commence à avoir des doutes, il reste combien de jours, Steve? 28 jours.
J'ai pas encore ouvert les yeux, j'ai toujours les yeux fermés.
Et la femme est là, elle est en train de souffrir.
Umugore akaba ari ngaha ariko arababara ariko aribaruka.
Et un moment on lui dit ça, il y a le bébé est en train de sortir. On voit la tête.
Bakavuga ati turabona umutwe.
Là.
Ahora era akaba ari gece kubabara kandi gose.
Et le médecin récupère le bébé.
Umuganga akakira umwana.
Et la première chose qu'il fait?
Ikintu cyambere akora?
Il met ici.
Acha.
La dame tient son bébé.
Achamuhereza mama.
Elle a d'un seul coup. Ah mon bébé. Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse d'avoir mis un être humain au monde. Mais juste quelques minutes avant, elle avait qu'une chose, c'est que ça se termine au plus vite. Pourquoi? Parce qu'aucune dame n'aime les douleurs de l'enfancement. Et c'est la même chose dans la prière. Il y a des moments vraiment où vous ressentirez des choses très fortes. Inexplicable. Quelque chose que Dieu mettra sur vous. Comme si le cœur de Dieu d'un seul coup vous est transmis. Dans un domaine ou un autre. Et vous êtes là devant le Seigneur. C'est comme si, là vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Ça c'est le genre de prière que j'aime. Vous êtes là, vraiment c'est intense. C'est intense, c'est pas sec. Ça n'a rien à voir avec un désert sec ou quoi que ce soit. C'est intense. Et vous êtes le canal de Dieu. Pour qu'il y ait quelque chose qui soit enfanté dans l'esprit. Et qu'après vous puissiez voir ce fruit extraordinaire de la prière exaucée. Ça, c'est la prière inspirée. Ça, c'est les douleurs de l'enfantement parfois qu'on subit. Mais des fois, ça peut durer un certain temps. Ou Dieu, pendant plusieurs jours de suite, à des moments très déterminés, il suffit que vous vous mettiez dans la prière et d'un seul coup ça revient sur vous et vous priez. C'est comme s'il y a des douleurs de l'enfantement, quelque chose qui veut comme si sortir de vous. Ça, c'est la vraie prière de supplication. C'est vraiment l'enfantement dans l'esprit. Et quand vous voyez le résultat, vous êtes comme la dame qui tient son bébé. C'est la même chose. Là, vous avez vu le résultat de ce que vous avez prié. Ça s'appelle les douleurs de l'enfantement. Rien ne se passe de divin sur cette terre par hasard. Toutes les œuvres qui viennent de Dieu ont été enfantées dans la prière. Parce que Dieu a pu trouver des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui ont été disponibles ce jour-là. Je pourrais vous raconter personnellement. Bien des fois, ça m'est arrivé. Cette église est née avec le douleur de l'enfantement. D'un fardeau divin qui venait du ciel. Parce que quand les gens initient des œuvres selon la chair, il n'y a rien qui se passe. Ils n'ont pas d'onction. Il n'y a pas de fruits. Quand vous y allez 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, c'est mort, c'est vide. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas la vie qui vient d'en haut. Moi, il y a bien des choses que j'ai pu voir comme ça. Parce que d'un seul coup, le Saint-Esprit était là. Il mettait un fardeau. Et d'un seul coup, je prie pour quelque chose. Et quelques temps après, ça naît. Je vous garantis que ce que je vous ai expliqué ce soir, c'est quelque chose qui est très important. Quelque chose qu'il faut apprendre à expérimenter. Mais ça commence par une chose, la disponibilité. Mettez votre vie à disposition de Dieu. Ne pensez pas que les choses divines, les profondes, arriveront comme ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est de l'illusion. Par contre, quand quelqu'un est disponible, et tu dis vraiment, Seigneur, je veux que tu utilises ma vie. Je veux être à ta disposition. Seigneur, je veux chercher ta face. Mais ne dites pas, je veux chercher ta face avec un objectif personnel, c'est-à-dire vos propres plans.
ariko nturondere munyonga y'Imana usanzwe ufite imigambi yawe wifitiye imbere
yawe. Je le vois tellement.
Ndabibona kenshi.
C'est pas ça la supplication.
Uko siko kwinginga.
C'est Dieu qui vient du ciel et qui met quelque chose sur vous.
N'Imana iva mwijuru ikagushira ikintu mu mutima wawe.
C'est pas vous qui fabriquez votre propre film.
Si wowe ubwawe wikorera wihimbira akantu.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça.
Kuko hari nabandi benshi babikora
gutyo. Ils ont certains objectifs qui des fois sont très bons, je dirais, d'une manière générale, c'est très bien. Mais ils essaient d'entrer dans un espèce de fardeau. Ne faites jamais ça. Vous allez vous séduire vous-même. La séduction, c'est quoi? C'est croire qu'on est dans la vérité alors qu'on est complètement dans le mensonge. On est complètement dans le mensonge. On se pense être dans la vérité. On pense que Dieu nous a parlé. On pense qu'on est exactement en train de faire les choses de Dieu.
Et t'es
complètement à côté
de
ce que le Seigneur a pour toi. Comment est-ce possible? Parce que tu t'es persuadé toi-même. Et tu crois que t'es dans la vérité. Et t'es pas dans la vérité. Et ça, je vais vous dire une chose. J'ai vu beaucoup et j'en vois encore beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. La disponibilité pour que Dieu mette le fardeau divin qui vient du ciel, qui descend dans votre cœur. Et là, quand vous entrez dans la prière, vous rentrez dans une dimension que vous n'avez jamais encore connue. Nous allons nous lever, nous allons prier.
Et après,
Alléluia.